Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau à Je vote pour la science. La guerre en Ukraine se déroule autant sur le terrain qu'en ligne. Désinformation, propagande numérique, cyberattaque, c'est une stratégie utilisée par les Russes pour justifier son invasion en postant des messages victorieux de libération par les chars russes sur TikTok, par exemple. Les réseaux sociaux donnent un accès en quelques clics à de nombreux témoignages qui vous permettent de suivre l'évolution des événements en temps réel et à l'autre bout du monde, mais ils ont aussi le pouvoir de relayer la désinformation. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs resserré ses mesures de sécurité informatique face à de sérieuses menaces en provenance du Kremlin. Des cyberattaques russes ont piraté de nombreux sites gouvernementaux ukrainiens le 14 janvier dernier, fermant près de la moitié des sites et détruisant massivement des données. L'autre guerre de l'Ukraine se déroule numériquement. Nous en parlons tout de suite de l'autre bataille. Restez là. À Je vote pour la science, cette semaine, nous voulons aborder la guerre numérique que se livrent les Russes et les Ukrainiens. Internet peut être aussi un champ de bataille et faire de nombreux dommages. J'en parle aujourd'hui avec Simon Thibault, professeur agrégé au département des sciences politiques de l'Université Montréal. Vous vous intéressez à la désinformation et à la manipulation en ligne, c'est bien ça?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Paul Laurier, le président de Vigitex. Ça, c'est une entreprise experte en cyber-investigation. Il est spécialiste en cyber-enquête. Vous avez travaillé à la Sûreté du Québec au sein de plusieurs départements de renseignement ainsi que d'une équipe intégrée de sécurité nationale avec la Gendarmerie royale du Canada et le Service de renseignement canadien de sécurité. Vous avez lutté contre des crimes financiers, le terrorisme et son financement, c'est bien ça?
Oui.
On va explorer tout ça. Bonjour. Donc, bonjour à tous les deux. Désinformation, propagande, cyberattaque. Plus loin du champ de bataille, mais plus proche de nous, la guerre numérique vise à dissimuler, déstabiliser, mais aussi rallier de nombreux supporters afin de soutenir l'invasion russe ou la riposte ukrainienne. Là aussi, il y a des vainqueurs et des perdants. Comment se déroule cette bataille numérique qui sévit au sein de la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Peut-être, commençons par vous, Monsieur Laurier.
En fait, c'est complexe parce que, comme tout champ de bataille, le champ de bataille numérique est aussi il y a des tactiques et des stratégies militaires qui sont déployées pour neutraliser l'adversaire. On a vu déjà en début de conflit plusieurs sites de télécommunications, c'était classique, on va attaquer physiquement des sites de télécommunications en vue de couper toute communication et là, ça rend difficile et aux armées et aux soldats et aux citoyens de communiquer. On a vu M. Musk qui est arrivé avec sa technologie Starlink et qui s'est rapidement installé. Et là, on a vu depuis ce temps-là une progression dans la montée ukrainienne, ce qui veut dire qu'on a profité de télécommunications, on a profité d'une avance stratégique parce qu'évidemment, Starlink est une technologie à basse altitude et assez difficile à compter. Le temps que les Russes comprennent la technologie pour la neutraliser une deuxième fois, ben, on est dans un champ de bataille qui est très, très similaire à ce qu'un champ de bataille traditionnel, on peut voir dans un champ de bataille traditionnel avec des voitures, avec des blindés, avec des soldats, des fantassins et des généraux qui vont déplacer les pièces sur le terrain pour faire des avancées. Donc, il n'y a pas beaucoup de différences. Il y a des similitudes, mais évidemment, les technologies et les techniques sont différentes.
Oui. Professeur Thibault, comment vous qualifieriez cette bataille numérique qui sévit actuellement?
Bataille numérique, guerre de l'information, là, c'est des expressions qu'on entend beaucoup. Là, comme le disait, bien évidemment, il y a l'aspect stratégique, notamment l'accès aux communications, la Starlink avec M. Musk qui a offert ces moyens de communication qui sont indispensables à l'armée ukrainienne, bien évidemment, mais aussi cette guerre de l'information, elle se déroule dans un contexte médiatique, avec des récits concurrents de médias qui vont cadrer l'information de façon bien différente, dépendamment du public auquel on va destiner l'information. La guerre de l'information, elle se déroule aussi sur Internet, là, notamment à l'aide de l'intelligence artificielle. Par exemple, à l'aide de robots en ligne, on peut amplifier des discours partisans, on peut relayer des discours propagandistes sur les médias sociaux. Il y a aussi les trolls qui vont être à l'emploi de régimes, en particulier en Russie, qui vont polariser les discussions en ligne, qui vont répandre des rumeurs, des fausses informations. Et comme le disait votre autre invité, bien évidemment dans le cyberespace, mais les cyberattaques, mais aussi le cyberespionnage, ça permet notamment de saboter les infrastructures de l'ennemi, mais aussi de voler des données sensibles qui peuvent ensuite être utilisées à l'encontre de l'adversaire dans des opérations de propagande. Puis il faut dire aussi que cette référence à une guerre de l'information entre la Russie et l'Ukraine, ça s'inscrit dans un contexte plus large que celui du conflit de l'Ukraine. Depuis plusieurs années, ou dire même des responsables russes, l'Occident mènerait, selon les Russes, une guerre de l'information agressive à l'égard de la Russie, en s'ingérant notamment dans sa sphère d'influence et en encourageant les soulèvements populaires. Donc, c'est un concept qui revient depuis plusieurs années. Et bien évidemment, on en voit des manifestations dans le cadre du conflit en Ukraine.
Oui, ce n'est pas nouveau. La Deuxième Guerre mondiale avait déjà son cinéma de propagande. Peut-être ce qui a changé, c'est la technologie, finalement, et avec Internet. On dirait même que ça a commencé entre les protagonistes en 2014 avec la guerre en Crimée. Est-ce que c'est bien le cas, M. Laurier?
Mais en fait, les techniques militaires, hein, c'est toujours la cueillette de renseignements. Ça n'a pas changé depuis la première à la deuxième. Toute guerre comporte une phase de renseignement. Donc, on a l'État qui travaille, et on a le web, on a maintenant une technologie différente, mais la méthodologie est la même. On doit aller glaner l'information, on frappe à des portes, on automatise des mécanismes de prise de renseignement, on cherche des infrastructures critiques, on trouve des vulnérabilités et on va les attaquer. Et on ne va pas les attaquer parce qu'on peut... On peut prendre des technologies pour détruire l'autre, mais on va surtout prendre des technologies pour infiltrer l'autre. Et ce qui est les crimes, et ce qu'on parle sur Vancouver présentement, et c'est les organisations au niveau international. On parle beaucoup de ces phénomènes-là, mais on va essayer d'attaquer, on va essayer d'infecter, on va essayer d'avoir l'information à long terme, on va essayer d'encrypter des données et on va soit la remettre, comme disait monsieur, on va prendre cette information-là et on va la publier, ou on va prendre cette information-là, on va la déformer, on va la publier donc, et on va aussi prendre ces informations-là pour connaître les infrastructures critiques qu'on veut neutraliser. Les infrastructures critiques, c'est pas nécessairement une centrale nucléaire, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, c'est des systèmes téléphoniques, c'est des grandes banques, c'est des systèmes de réservation d'avions. On l'a vu, il y a des compagnies d'avions qui sont tombées pendant plusieurs jours, ça a créé des chaos incroyables dans les aéroports. Et c'est pas une stratégie de guerre finale, mais c'est de faire mal paraître l'adversaire et de lui donner énormément de problèmes à résoudre. Et pendant ce temps-là, ben, les avancées sur le terrain ne se font pas. Donc, la guerre, les Russes ici, les Chinois, les Indiens, les Iraniens, tout ce qui est conflictuel au niveau géopolitique, ben, ces gens-là se préparent à être attaqués et pour être attaqués, se préparent à l'attaque. Donc, c'est mutuel. Les Américains le font, les Canadiens, on est un peu plus en retard. On a commencé il y a 4 ans avec un centre canadien. Donc, on est vraiment dans cette mentalité-là. On est vraiment dans une logique de guerre.
Oui, tout à fait. On entend beaucoup parler de désinformation et de propagande russe. Comment la Russie utilise-t-elle cette arme, professeur Thibault?
Eh bien, même avant le début du conflit en Ukraine, là, on entendait parler de la propagande du Kremlin. Cette propagande-là, elle est notamment diffusée grâce, comme je le disais, aux robots en ligne, aux trolls qui amplifient les messages pro-Poutine. On la voit aussi sur les médias traditionnels sous l'influence du régime. Par exemple, le régime russe, là, pour relayer son influence sur la scène internationale, il a créé en 2005 la chaîne d'information internationale RT, qui s'appelait anciennement Russia Today. En 2014, on a créé l'agence de nouvelles Sputnik. Et c'est des médias qui sont financés par le régime de Poutine. Ils sont fort présents sur les médias sociaux. Et ils ont été accusés, là, avant d'être bannis, là, de plusieurs pays, là, tout récemment, là, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine. Ils avaient été accusés par de nombreux acteurs politiques, des services de renseignement occidentaux, de relayer une couverture qui était biaisée, mensongère, et d'être, en quelque sorte, les organes de propagande du Kremlin. Ce qui est arrivé là, dans la foulée d'une sans surprise, là, c'est qu'à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bien, il y a de nombreux pays, dont le Canada et les pays européens, qui ont interdit RT et Sputnik de diffuser leur contenu sur leurs ondes et sur Internet. Il y a aussi une propagande russe qui vise la population russe. À l'intérieur de la Russie, il y a des médias qui sont bien évidemment sous l'influence du régime, donc dont des chaînes de télévision d'État fort populaires, Russia 1 en est une. C'est des médias qui relaient une couverture biaisée, notamment du conflit en Ukraine. Ils propagent une couverture avec des informations trompeuses, comme celle, par exemple, de présenter le régime ukrainien comme un régime fasciste, néo-nazi. Il y a aussi ces émissions de débat qui sont un peu surréalistes là, quand on les regarde. Là, elles sont des fois traduites sur des chaînes Twitter qui font la traduction en sous-titres, là où les propagandistes font l'apologie de l'invasion militaire en Ukraine. Ils accusent l'armée ukrainienne de toutes les atrocités sur le terrain, en niant celle de l'armée russe, puis menacent même l'Occident de frappe nucléaire. Donc, imaginez, les propos sont très, très incendiaires. Et ce genre de propagande patriotique reliée par les médias sous l'influence du Kremlin, la censure croissante de l'Internet russe et des médias indépendants qui sont de plus en plus bâillonnés, bien dans ce contexte-là, la capacité des Russes de se tenir bien informés, elle est affectée, bien évidemment. Mais il y a quand même là quelques lueurs d'espoir. Il y avait une enquête récente qui révélait que l'audience des principales télévisions sous l'influence du régime, donc la popularité avait diminué apparemment. L'utilisation aussi du service de messagerie cryptée Telegram serait par ailleurs en hausse, de même que la demande pour les réseaux virtuels privés. Ce sont des logiciels qui permettent de contourner la censure en ligne. Donc, il y a des lueurs d'espoir, mais ça reste un portrait assez sombre.
Oui. Est-ce que l'Ukraine utilise également cette arme, ou ces armes, plutôt?
De propagande, si vous me permettez peut-être pour enchaîner, oui, bien évidemment que l'Ukraine le fait. La propagande, si vous me permettez, là, peut-être de faire juste une distinction entre propagande et désinformation. Mm-hmm. Pour plusieurs chercheurs, la désinformation, c'est une forme de propagande. Mm-hmm. Bon, il y a des débats dans la littérature par rapport à ça, là, sur les concepts, mais ceux qui arguent que la propagande, c'est la désinformation, c'est une forme de propagande, ça serait selon une propagande qui est noire. Donc, on ne sait pas trop qui nous parle. La source est souvent dissimulée et puis le message est mensonger. Il vise à tromper le public auquel on s'adresse. On veut, avec la propagande, tenter de convaincre, mais dans un contexte de désinformation, donc de propagande noire, on veut convaincre en trompant, en cachant qui nous parle, en relayant des fausses informations. Mais il peut aussi y avoir de la propagande qui, dans la littérature, on appelle ça de la propagande blanche. Donc, on peut penser, par exemple, à la publicité. On veut vous convaincre d'acheter un produit. On veut vous convaincre de voter pour un parti politique. Ou on veut vous convaincre d'appuyer un pays pour lui fournir de l'armement, de l'aide économique. Et on a vu, dans le cas du contexte ukrainien, qu'il y avait beaucoup d'opérations de propagande qui étaient mises en œuvre. Zelensky, son équipe, là, manifestement, il prête une attention. C'est un ancien acteur. Puis il prête une attention très, très fine à ses interventions. Dès le début, même quand c'était façon spontanée, en mode selfie, à l'extérieur du palais présidentiel, sous les bombardements, etc., que ça soit aussi de façon plus solennelle à l'intérieur, à son bureau, lorsqu'il parlait notamment aux différents parlements des différents pays à qui l'Ukraine demandait du soutien économique et militaire. On faisait référence à l'histoire, aux symboles nationaux, donc on voulait susciter bien évidemment l'émotion, mais en même temps, on voulait gagner la sympathie. Donc, clairement, on était dans des opérations de propagande, mais on savait qui nous parlait, puis les discours étaient généralement factuels. Donc, on n'était pas dans la désinformation. Ça ne veut pas dire que les autorités ukrainiennes ne font pas de désinformation. Dans tous les conflits, tous les protagonistes vont faire de la désinformation. Dans le cas des conflits, là, c'est à travers l'histoire, ça se répète. Les autorités militaires ukrainiennes, par exemple, ils ont moussé diffusé sur leur fil Twitter des fausses images, ils ont moussé des fausses histoires, notamment sur un as de l'aviation ukrainienne qui n'était pas une vraie histoire, qui avait même été reconnue par étonnamment, parce que c'est rare qu'on reconnaisse ce genre d'histoire-là, mais la défense ukrainienne avait reconnu que c'était une fausse histoire. Manifestement, les autorités ukrainiennes jugeaient utile de mousser ce genre de fausses histoires, possiblement pour insuffler du courage à sa population. Là, c'était fait dans les premiers moments du conflit, mais il veut dire que ça se poursuit. Là, c'est quelque chose, c'est des tactiques qui sont classiques, tous les belligérants des conflits s'y adonnent.
Oui, et c'est des deux côtés. Monsieur Laurier, il y a cette guerre de l'information, mais il y a aussi des cyberattaques, il y a aussi l'utilisation du dark web, il y a aussi des menaces, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a comme outils numériques, finalement, qui sont utilisés dans l'actuel conflit?
En fait, je peux. Il y a trois techniques assez simples. La technique de l'arrêt, donc ce qu'on appelle les déni de service. Je vais prendre l'infrastructure, je vais la neutraliser, je vais la bombarder, je vais prendre tout ce que je peux avoir comme serveur qui sont propulsés par des moyens de télécommunication. Et là, je vais les attaquer tellement faire de demandes rapidement que les infrastructures vont finir par être hors service. C'est des techniques qui sont plus difficiles maintenant parce que les technologies des fabricants de techno se sont raffinées et les attaques de données de service sont beaucoup plus complexes maintenant à réaliser. On parle de milliards d'instructions à seconde et là, on parle d'un outil de télécom qui va être capable de le parer, de voir que ça s'en vient, va être capable d'atténuer cette menace-là. L'autre, c'est d'infecter. L'infection est beaucoup plus malicieuse. Je vais vous encrypter, je vais vous envoyer ce qu'on appelle une charge virale, je vais passer par vos courriels, je vais vous hameçonner, je vais envoyer à des sujets dans les organisations que j'ai préalablement espionnées. Mm-hmm. Je vais déployer des technologies qui vont faire que je vais vous neutraliser à partir de l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, ben, je vais créer un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement-là va créer chez l'adversaire une capacité vraiment réduite de réponse. On parle toujours d'infrastructure critique, toujours d'informations très essentielles. Et la troisième technologie, ben, c'est d'infiltrer. Troisième technique, c'est d'infiltrer la personne. Si vous avez vous êtes au gouvernement du Canada et votre chef, je vous mets ça vraiment drôle, là, votre chef des technologies, c'est un agent double russe, ben lui, il peut faire énormément de dommages à l'intérieur sans que ça vienne je vais avoir compromis le système informatique, les systèmes critiques, les systèmes sensibles de l'intérieur. Donc, c'est très, très difficile à parer parce que la menace est de l'interne et avant qu'on découvre qui est quoi et comment, ben souvent, on est vraiment dans le problème. Le Code des Jardins n'est pas un cas militaire, mais on l'a vu de l'ampleur du dommage d'un employé avec lequel lui a décidé d'exfiltrer une information. On a vu des dommages que ça a créé à la population, à l'institution, au gouvernement, plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment catastrophique. Donc, c'est les trois techniques qui sont utilisées et c'est constamment utilisé. Tout le monde, et puis tout le monde, il y a plein de techniques qui sont utilisées, de technologies, pour constamment épier le web. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Russie, d'ailleurs, quand j'y étais, là, j'ai travaillé pour l'Agence mondiale antidopage, ça veut faire l'exfiltration des données pour le laboratoire russe. Ben, c'est. Vous sentez, quand vous êtes à l'intérieur, vous sentez déjà que vous n'avez pas accès à l'extérieur. Vous sentez déjà qu'il commence à avoir une espèce de rideau de fer numérique, un dôme numérique autour des citoyens, avec lequel, ben, c'est difficile d'exfiltrer l'information, mais c'est difficile de pénétrer aussi dans ce dôme d'affaires-là.
Professeur Thibault, justement, qu'est-ce que le rideau de fer numérique en Russie? Est-ce que c'est identique à celui de la Chine ou de la Corée du Nord qui contrôle finalement le service Internet?
C'est pas aussi dramatique là que ce qui se passe par exemple en Chine. Dramatique dans le sens où c'est des environnements Internet beaucoup plus isolés, beaucoup plus fermés. Donc cette expression d'un rideau de fer numérique en Russie, là, c'est utilisé pour illustrer le contrôle grandissant de l'espace médiatique, mais aussi de l'Internet russe, là, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en février 2022. L'Agence de régulation des communications russe, là, elle a, par exemple, bloqué en février-mars des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter. Il y a aussi des sites web de médias occidentaux comme BBC News et Voice of America. J'en nomme deux, mais j'aurais pu en nommer des dizaines. Des sites de médias indépendants russes, des sites de médias ukrainiens qui étaient accusés de répandre des informations mensongères, ben, tout ça a été banni. Donc, le régime russe, là, il a fait le ménage de sites d'information et de médias sociaux qui pouvaient juger problématiques parce qu'ils fournissaient une information plus équilibrée ou contraire aux intérêts du Kremlin. Il faut rappeler aussi qu'au début mars, là, c'est très important de le rappeler parce que c'est une loi très sévère là, qui a été adoptée par le régime, qui prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement pour tout individu qui diffuserait des informations jugées mensongères sur l'armée russe et ses opérations en Ukraine. Donc ça a clairement rendu tout le monde sur le qui-vive, incluant les journalistes. Il y a eu beaucoup de médias étrangers qui ont dû quitter la Russie. Mais ça, malgré là, ce portrait plutôt sombre, encore une fois, là, la situation en Russie, c'est vraiment pas jojo, mais en même temps, c'est moins, c'est encore pire en Chine et bien évidemment en Corée du Nord. Là. L'Internet russe est plus intégré dans l'infrastructure mondiale de l'Internet. Malgré le blocage de nombreux sites comme Facebook, Instagram, Twitter, ben le site YouTube est toujours accessible en Russie. Telegram, le logiciel de messagerie cryptée aussi est accessible. Et donc, pour encore combien de temps, se diront certains, c'est vrai, mais il reste encore quelques espaces de liberté où il est possible pour les Russes de consulter des informations non contrôlées. Cela dit, de plus en plus, là, et puis particulièrement chez les jeunes, dans des populations plus urbanisées, il va y avoir toutes ces méthodes qui vont être prises pour tenter de contourner la censure, notamment avec des réseaux virtuels privés.
Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans l'ombre sans qu'on réalise vraiment ce qui se passe. Est-ce que ça pourrait nous affecter ici au Québec? Je pense notamment à la cyberattaque de la luminerie Alouette à Sept-Îles en mars dernier, M. Laurier.
En fait, c'est difficile maintenant parce que ce qu'on voit, ce qui est constaté, c'est que les groupes du gros loup méchant étatique, russe, chinois, iranien, et la Corée, ben ces groupes-là se fractionnent, hein, parce que c'est des gens qui sont militairement engagés la semaine, mais la fin de semaine arrondissent les fins de mois et deviennent des groupes criminalisés qui travaillent ensemble, qui utilisent une technologie ou qui utilisent les techniques apprises pour faire avoir des profits. C'est vraiment l'argent est vraiment la clé du succès dans ça, ces opérations-là. Et on voit beaucoup d'attaques, ce qu'on appelle de rançon. C'est vraiment très, très, très difficile à contrer. Il y avait hier une conférence de quelqu'un chez Google qui démontrait comment maintenant ce qu'on appelle les techniques, les fichiers sont beaucoup plus complexes. Avant, vous envoyez un programme exécutable et on le bloquait, c'était fini. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des scripts, ça provient de plusieurs endroits. Avec l'implémentation de partout maintenant de l'informatique, l'infonuagique, ben, l'information peut aller chercher, pas nécessairement à l'intérieur de l'entreprise, mais à l'extérieur de l'entreprise. Mm-hmm. On va barrer donc ça a des répercussions parce que c'est quand même des techniques militaires. Et ça affecte toujours, on le voit, il y a des écoles, des cégeps, des compagnies d'aviation. Il y a plein de monde qui ne sont pas A1 au niveau de la cybersécurité. Et ces gens-là, ils l'exploitent. Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est des pirates de l'État ou c'est des criminels? C'est vraiment, cette preuve-là est très, très, très difficile à faire et d'avoir le hors de tout doute. On sait c'est qui, mais d'amener ces gens-là devant les tribunaux, c'est beaucoup plus compliqué.
Peut-être si je peux me permettre de rajouter, là, ce genre de vol là, d'intrusion ou de vol de données, etc., ça peut être utilisé, comme je le disais tout à l'heure, là, dans un contexte où on va réutiliser ces données-là, notamment dans des campagnes de propagande ou dans des campagnes de désinformation. Rappelez-vous là, la campagne présidentielle américaine. Il y avait eu le piratage par des agents du renseignement russe de différentes organisations et acteurs américains là, qui étaient jugés d'intérêt stratégique. Là. Par exemple, les serveurs du Comité national démocrate. L'objectif, c'était de voler les contenus, mais après ça, de les des serveurs démocrates pour ensuite relier le contenu avec le site web WikiLeaks, qui, dans un contexte de la campagne présidentielle, rendait public les informations à des moments très stratégiques de la campagne présidentielle pour, notamment, dans ce contexte-là, c'était des informations qui étaient défavorables à Hillary Clinton parce que ça montrait tout le grenouillage qui existait au sein du parti, tous les affrontements qui existaient. Mm-hmm. Et c'était en partie pour démobiliser les partisans de Bernie Sanders qui avait lutté contre Hillary Clinton pour être candidat démocrate à la présidentielle américaine. Et donc, tout ça, ça avait été utilisé et ça a été illustré, documenté, justement pour semer la zizanie dans le contexte électoral, pour s'ingérer dans le contexte américain. Et donc, c'est un exemple où là, le vol de données peut être utilisé dans un contexte où on veut faire de la désinformation, où on veut semer la zizanie, où on veut faire une campagne d'influence dans un contexte démocratique pour justement s'en prendre et miner le processus démocratique d'un pays adversaire, dans ce cas-ci, les États-Unis.
Oui, il y a les experts là-dedans, mais il y a aussi des internautes, j'allais dire des citoyens, mais c'est pas des monsieur et des madame tout le monde non plus. Je pense à Anonymous, je pense à IT Army, Belarusian Cyber Partisan, qui tentent de répliquer depuis le début des hostilités. Est-ce qu'on peut qualifier ce moyen de citoyen? Comment on peut le qualifier, finalement? Monsieur Laurier, peut-être?
Ben, ce sont en général, et pour les avoir, avoir travaillé de proche là, pendant le printemps érable, on a regardé le phénomène au Québec. J'étais en charge d'une équipe où on regardait vraiment tout ce qui était au niveau de la propagande, au niveau du déploiement d'informations, des attaques contre le gouvernement québécois à cette époque-là. Ben, ce sont des gens qui sont, on peut penser que ce sont des citoyens normaux, mais en général, ce sont des gens de assez haut niveau mm-hmm. et qui comprennent très, très bien les technologies. Donc, ça aide, c'est contré, mais c'est pas toujours harmonisé avec la défense, je vous dirais, avec l'alignement. Ça se voit un peu partout, je vous dirais, mais ça peut aller dans plusieurs sens. Ces groupes-là sont importants, voire essentiels. Par contre, ben, dans une stratégie plus globale, ben, c'est un peu plus dispersé. Mais c'est de remettre, dans le fond, ces organisations-là sont là pour remettre les pendules à l'heure mm-hmm. et pour montrer aussi leur présence. Donc, quand vous attaquez, ben, vous savez que ces gens-là peuvent réagir et peuvent ramener certains faits sur le je vous dirais ça au niveau la visibilité de l'information qui est cachée.
Je peux peut-être me permettre, à moins qu'on ait plus de temps là, sur Anonymous, c'est vraiment un mouvement là qui, pour les recherches qui se sont penchées là-dessus, là, qui s'inscrivait là, dans le web où qui se veut le plus libertaire possible. On voulait, par exemple, on s'en était pris dans les premiers moments lorsqu'il y avait du partage de fichiers, puis il y avait des compagnies américaines qui s'étaient mobilisées pour tenter de faire cesser ce partage de fichiers-là. Il y avait eu des attaques de déni de service qui avaient été faites, notamment aussi contre des compagnies de cartes de crédit américaines. Lorsqu'on s'en était pris à WikiLeaks, on avait attaqué les intérêts notamment du gouvernement américain et d'autres. Et donc, il y avait toujours cette volonté là de vouloir s'attaquer à des entités qui étaient jugées comme étant entravant la liberté sur Internet. Mais Anonymous aussi, c'est un mouvement qui, aussi, dans un contexte, par exemple, du printemps, des mouvements de soulèvement populaire lors du printemps arabe, ou bien dans mm-hmm. d'autres contextes, dans le contexte ukrainien, mm-hmm. on va faire des champs d'attaque. Mais ce que les recherches disent, c'est que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont très sophistiqués, mais il y en a beaucoup qui sont là aussi parce qu'ils suivent le mouvement. Ce sont pas nécessairement des pirates informatiques très, très sophistiqués, mais ils vont suivre le mouvement puis ils vont participer aux attaques, notamment.
Oui, à cette propagande ou à combattre la propagande, finalement. Donc, merci beaucoup. On était donc en compagnie de Simon Thibault, professeur agrégé au département des sciences politiques de l'Université de Montréal, et Paul Laurier, le président de Vigitech, donc une entreprise experte en cyber-investigation et un spécialiste de cyber-enquête. On vous mettra les liens. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci, bonne journée.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robartcher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons toujours des rediffusions sur ces ondes le jeudi et également sur le site de l'agence Science Presse. L'émission possède une page, visitez-la. Et si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien.
Jin Jiahua est un chercheur typique.